La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. Ce soir, on va parler élevage intensif et pandémie, puisque l'on a pu s'entretenir avec Brigitte Gauthière, une des cofondatrices de l'association L214 Éthique et Animaux, association que vous devez normalement connaître. Ils ont lancé une campagne il y a quelques jours, à la fois en ligne mais aussi dans différentes villes de France, afin d'alerter sur les liens qui se trouvent entre élevage intensif, déforestation et propagation des pandémies. Je vous propose qu'on écoute ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous. Il est probable que vous ayez déjà entendu parler de L214 Éthique et Animaux, une des associations de défense des animaux les plus médiatisées, notamment grâce à la diffusion de vidéos dénonçant les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Antispéciste, L214 propose également des conseils pour diminuer sa consommation de viande et se tourner vers le véganisme. IL ont lancé le 15 janvier une campagne intitulée « On subit les conséquences, mais qui agit sur les causes ?» qui vise à interpeller les pouvoirs publics et à informer sur les liens entre l'élevage intensif et l'émergence de nouvelles pandémies, en se basant sur les travaux menés par des scientifiques tels que Serge Morand et Franck Courchamp du CNRS ou Peter Dajac, chercheur en zoologie et co-auteur d'un rapport sur le sujet. Pour parler de tout ça, nous sommes au téléphone avec Brigitte Gauthière, cofondatrice de L214 Éthique et Animaux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez bien revenir un peu plus en détail sur ce que disent exactement ces scientifiques sur le rôle de l'élevage intensif, mais aussi de la déforestation qui est liée à cet élevage intensif dans l'émergence et la propagation de ces épidémies?
Donc on a une alerte aujourd'hui qui est très claire de la part des scientifiques, qui est de dire aujourd'hui avec les élevages intensifs, on a une possibilité de développement des virus et d'autres pathogènes qui est facilitée par la concentration forte d'animaux dans le même élevage, mais aussi avec des élevages qui sont proches les uns des autres avec un très grand nombre d'animaux, avec des animaux qui sont très standardisés, avec une variabilité génétique qui est faible aujourd'hui. Un poulet, je crois, ça peut donner naissance à 28 millions de poussins, qui est juste complètement énorme. Et puis, on a la question de la déforestation qui peut être liée aussi avec les questions d'élevage, puisqu'on a besoin de davantage de terres agricoles, toujours davantage, puisque la consommation, la production de viande augmente. Ça veut dire des terres agricoles en plus pour faire pousser l'alimentation pour le bétail ou pour faire des pâturages, comme on peut le voir, par exemple, au Brésil, dont la France est un des premiers importateurs de soja. Et donc, on a aujourd'hui 63% de la déforestation de la forêt amazonienne qui est due justement aux activités d'élevage, que ce soit l'élevage en lui-même ou faire pousser l'alimentation pour le bétail.
Et également le fait que quand la déforestation augmente, on a aussi accès plus facilement à des animaux sauvages qui sont eux-mêmes porteurs d'agents pathogènes.
Oui, exactement. Donc on a des espèces d'amplificateurs de risques avec les élevages intensifs et puis cette déforestation qui nous rapproche d'animaux qu'on fréquentait pas avant et qui vont pouvoir contaminer soit des êtres humains, soit d'autres animaux. C'est par exemple le cas du virus Nipah, qui en Asie du Sud-Est, à partir de chauves-souris, où effectivement il y a eu un rapprochement des êtres humains par rapport à leur lieu d'habitation, qui sont venus contaminer des cochons. Et du coup, ça a déclenché une petite épidémie là-bas, qui est restée concentrée sur un secteur, mais on voit bien que les flambées épidémiques, on est un petit peu dans l'expectative. Là, on a une grippe aviaire, par exemple, qui est dans le sud-ouest, qui fait rage dans le sud-ouest, qui fait qu'on tue des centaines de milliers de canards aujourd'hui, et d'autres oiseaux, comme des poulets, pour essayer d'endiguer la propagation de ce virus. Alors, on a un ministre de l'Agriculture qui nous dit « Oui, il n'y a pas de risque, que ça ne peut pas passer aux êtres humains », puis on a l'OMS qui est beaucoup plus réservé, beaucoup plus prudent en disant non, on est sous surveillance accrue parce qu'on sait que d'être à proximité comme ça d'un virus qui a un terrain idéal de développement, c'est quand même à surveiller de très près.
On ne peut pas tout à fait dire que le sujet ne soit pas médiatisé. C'est des choses qu'on a pu lire, qu'on a pu entendre dès le début de la pandémie du coronavirus. Vous listez d'ailleurs toute une série d'articles sur la page de votre campagne qui en parle. Mais pour autant, ce ne sont pas des choses dont j'ai l'impression qu'elles soient rentrées dans des discours dominants susceptibles de toucher un public plus large.
Alors effectivement, ça fait un moment, et puis Serge Morand, il en parle depuis très longtemps. Un des vieux articles aussi qu'on a retrouvé, c'est sur la public school en Angleterre, public health school, enfin vraiment un organisme de santé anglais qui en 2007 disait pourquoi il n'y a pas d'action pour essayer de sortir de l'élevage intensif, et même ils allaient jusqu'à dire pourquoi on ne renonce pas à la viande vu les risques que ça nous fait encourir. Ça, vous pouvez retrouver les sources sur viande.info, qui est le site de L214, qui regroupe un peu tout l'impact de la production et de la consommation de viande. Donc on a mis toutes les sources qu'on a pu trouver de notre côté. Alors c'est pas exhaustif, hein, il y en a d'autres. Mais effectivement, c'est un discours qu'on a entendu autour de l'élevage intensif, autour de la déforestation. Et aujourd'hui, ce qu'on soulève, c'est qu'il y a des alertes scientifiques dans ce domaine-là, dans le domaine du climat, dans le domaine de l'éthique animale aussi, avec la reconnaissance de la sensibilité des animaux, par exemple. Et en fait, ce n'est pas suivi de décisions politiques. Il n'y a pas d'actions qui sont entreprises à partir de ces conclusions des scientifiques. Donc les scientifiques, eux, ils posent un constat. Ce constat devrait mener à des actions. Et en fait, c'est dans ces actions qui ne sont pas là qu'on va interpeller effectivement le président de la République, Emmanuel Macron, en disant, écoutez, aujourd'hui, on a un constat qui est quand même très clair de la part des scientifiques. Pourquoi vous ne prenez pas la mesure, finalement, de l'urgence à agir et vous ne nous emmenez pas vers une société qui prend en compte ces alertes scientifiques? Et quelque part, le mouvement pour le climat aussi, c'est un peu l'interpellation des pouvoirs publics qui font. Nous, en tant qu'association de défense des animaux, c'est ce qu'on fait par rapport aussi aux conditions d'élevage, par rapport à l'abattage des animaux. Et on a l'impression qu'on a des scientifiques qui nous donnent de la matière pour pouvoir prendre des décisions publiques. Et de l'autre côté, on a un pouvoir public qui, alors parfois, va faire des déclarations en disant bien sûr, le bien-être animal, c'est notre priorité. Évidemment, nous sommes des champions du climat et tout ça. Mais en fait, dans les faits, dans les actions, il n'y a rien. Ou en tout cas, il n'y a pas des actions qui sont efficaces. Si vous regardez sur le site du ministère de l'écologie, vous avez des actions qui nous incitent, par exemple, à prendre des douches à la place des bains, ou des choses comme ça, qui sont des éco-gestes, qui peuvent être des gestes qui sont importants, mais ce geste-là, de prendre des douches à la place des bains ou de prendre notre vélo à la place de notre voiture, finalement, il est moins impactant, moins efficace que diminuer sa consommation de viande, par exemple. De viande, de produits laitiers, etc. Donc c'est vraiment sur ces questions-là, alors d'agir pour inciter évidemment les citoyens à avoir des gestes individuels qui ont moins de conséquences, mais aussi des politiques publiques qui nous emmènent vers la fin de l'élevage intensif, par exemple. Ce qui nous amène son corollaire, c'est de manger bien moins de produits d'origine animale et donc de nous orienter vers une alimentation la plus végétale possible, si on pense simplement aux questions d'environnement et de santé publique qui sont aujourd'hui beaucoup sur la table. Après, si on parle des animaux, on devrait nous emmener vers une société qui ne considère plus les animaux comme des ressources à sa disposition. Mais là, je pense qu'on est sur des délais peut-être un petit peu plus longs que simplement se mettre d'accord sur on en termine avec l'élevage intensif, on accompagne les gens qui sont aujourd'hui impliqués dans ce mode de production. Et là-dessus, je crois qu'on est grosso modo tous et toutes d'accord. Quand les derniers sondages qu'on a, c'est 88% des gens qui s'opposent aux élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur aux animaux, alors qu'on a encore aujourd'hui dans les élevages 80% des animaux qui sont abattus chaque année viennent d'élevages intensifs, c'est-à-dire ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux.
cette inertie des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, vous avez une idée de comment elle s'explique? Est-ce que c'est que derrière l'élevage intensif, il y a des enjeux économiques trop importants? Est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire qui constitue un lobby qui peut faire pression de manière relativement efficace?
Alors très clairement, en France, on a un lobby de la viande, un lobby de l'élevage intensif qui est très très fort. Ne représente absolument pas le monde paysan aujourd'hui. Il ne représente pas les agriculteurs. Nous, on a de nombreux appels d'éleveurs, même d'éleveurs d'élevage intensif, qui nous disent combien ils sont tenus, pris à la gorge par les dettes qu'ils ont cumulées. Je ne sais pas si vous savez, mais un éleveur de cochons, il est endetté en moyenne à plus de 400 000 euros, par exemple. Donc, ils sont tenus par les banques, par les coopératives, et ils se sentent absolument pas représentés, notamment par le syndicat majoritaire, la FNSEA, aujourd'hui, qui défend des intérêts. Bah, on se demande, oui, qui sont plutôt les intérêts de l'industrie agroalimentaire que l'intérêt même des agriculteurs, par exemple. Donc, clairement, on est en face d'un lobby. La France, c'est force agricole, une puissance agricole très forte, même au sein de l'Union européenne. On est un des premiers pays producteurs de viande à l'échelon européen. Et du coup, on pèse lourd. Il y a des objectifs d'exportation. Grosso modo, nous, consommateurs, on est vus comme des débouchés pour l'industrie de la viande, qui a réussi aussi à faire passer, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais dans les recommandations, dans la loi aujourd'hui, c'est inscrit une fréquence pour la présentation de la viande dans les écoles, par exemple dans les cantines scolaires. Ce qui est une aberration. On devrait avoir juste, il faut que les enfants aient suffisamment de protéines, suffisamment de calcium. Et après, peu importe la façon dont on l'obtient, mais ça devrait être ça qui devrait être l'obligation des cantines. Or, là, on a obligation de présenter de la viande 4 fois sur un cycle de 20 repas. C'est vraiment... le lobby des petits pois n'était pas représenté à l'ensemble de ces négociations, quoi. Celui des frites non plus. Mais par contre, celui de la viande, il était bien présent.
Dans cette interpellation d'Emmanuel Macron et des pouvoirs publics, donc vous l'avez un peu évoqué, il s'agirait de désintensifier l'élevage. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez des échos par des économistes de ce qui serait possible de faire pour... est-ce qu'il faut du soutien justement pour les agriculteurs et les éleveurs qui souhaiteraient se tourner vers des formes d'élevage plus saines?
Oui, alors sur les revendications, on a effectivement un moratoire immédiat, pas de nouvelles constructions. On ne laisse pas des gens se lancer dans ce type de construction. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'appels d'éleveurs qui disent « faites quelque chose, il ne faut pas que nos jeunes s'installent dans ce type de structure ». En ce moment, on a une grande offensive dans le sud-ouest pour faire installer des élevages de veaux intensifs, par exemple. Donc vraiment, il y a une alerte là-dessus. Et puis, ce qu'on demande justement, c'est un plan de sortie de l'élevage intensif avec accompagnement des personnes qui en vivent aujourd'hui. De l'argent, il y en a. Hein. On est en train de discuter justement de la politique agricole commune. La France, c'est, alors que je ne dis pas de bêtises, au moins 7 milliards d'euros qui arrivent de subventions au niveau de l'Europe pour soutenir les activités agricoles en France. Et si vous demandez aux éleveurs eux-mêmes, ils disent que la répartition, elle ne favorise justement pas des formes, en tout cas d'élevage, qui sont moins pires pour l'environnement, moins pires pour les animaux, et du coup moins pires aussi pour les risques de santé publique. Donc c'est une réorientation des aides, de l'argent il y en a, c'est une réorientation, mais effectivement ce que vous dites c'est très juste, c'est-à-dire aujourd'hui, avoir des économistes qui se penchent sur la question, alors il y en a eu quelques-uns, hein. Il y a eu des études comme des études menées par Solagro, notamment, et même au niveau international, on a des alertes au niveau du GIEC, au niveau de l'ONU, qui disent effectivement il faut qu'on change la consommation déjà, dans les pays comme la France, diminuer drastiquement, et c'est pas juste un peu, c'est diminuer beaucoup notre consommation de produits d'origine animale, bien sûr viande et lait. Mais on nous parle aussi des animaux aquatiques, et là pour différentes raisons, encore sur la raréfaction justement des poissons dans la mer. Donc il y a vraiment d'autres questions aussi qui viennent se rattacher à ça. Donc il y a vraiment des recommandations de baisser la consommation de produits d'origine animale. Et puis tout ce qui est études qui montrent les émissions de gaz à effet de serre. Et puis là, toutes ces études qui disent attention, l'élevage intensif, c'est un des boosters potentiels de pandémie pour demain. Donc il y a vraiment une réaction à avoir qui soit forte. Enfin, là, je crois qu'on a tous vu pendant presque un an maintenant ce qu'un petit virus peut faire sur une société tout entière. Et donc, on a vraiment tout intérêt à essayer de prévenir plutôt que de guérir. Et là, pour le coup, il y a des scientifiques qui se sont penchés dessus et ils évaluent le coût de guérison, c'est-à-dire de réagir à une pandémie qui est déclenchée, à 100 fois plus importante que d'essayer de la prévenir. C'est-à-dire que ça nous coûterait moins cher de faire des actions de prévention, mais des vraies actions de prévention. Parce que là, il y a un article qui est sorti et qui dit « Oui, alors on va mettre sous surveillance pour voir comment ça émerge, tout ça, pour essayer d'endiguer quand il y en a qui émergent. » Et la question n'est pas là. La question est comment on évite que ça apparaisse. Comment on évite d'aller au contact de virus qui peuvent nous être si fatales d'une certaine façon. Et c'est bien là toute la question. Juste, on ne demande pas juste un énième numéro vert, un monitoring de ce qui se passe, une surveillance, ou je ne sais pas quoi. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on en évite le plus possible. Et je n'ai pas dit qu'on puisse les éviter tous. Mais en tout cas, du point de vue des scientifiques aujourd'hui, notre exposition à de nouveaux pathogènes, elle s'accélère. Et elle s'est accélérée aussi au cours du temps que justement le nombre d'animaux d'élevage a augmenté.
En parallèle de cette lettre ouverte, vous avez également lancé une pétition en ligne que l'on peut retrouver donc sur le www.l214.com/agir/sur-les-causes au pluriel. Où est-ce que vous en êtes de cette pétition en termes de signature et d'une manière plus générale des actions précédentes que vous avez pu mener? Quel impact ça peut avoir ces pétitions?
Alors sur cette pétition-là, j'ai pas regardé depuis un petit moment, mais 2 jours après son lancement, elle était déjà au-delà de 25 000 signatures. Et alors l'effet des pétitions, on peut avoir un petit peu de recul aujourd'hui. On le voit nous par rapport à, par exemple, l'élevage en cage des poules. On a mené une action depuis les débuts de l'association. Et le public, les pouvoirs publics, les entreprises, par rapport à l'élevage en cage des poules pondeuses. Et quand on a commencé l'action dès 2014, on était à 80% des poules pondeuses qui étaient élevées en cage. Aujourd'hui, les chiffres les plus récents disent qu'il y a 47% de poules en cage. Donc on voit qu'il y a eu une baisse très significative. Et si on a pu obtenir des engagements de la part de la distribution à tous les supermarchés qui sont engagés, on a les fabricants, on a l'hôtellerie-restauration et on a des producteurs qui sont engagés à abandonner, à bannir de leur production les œufs de poules élevés en cage. Et ils se sont engagés pour 2025, donc là on est vraiment en cours de transition. Ça donne beaucoup d'espoir de changement, et on a obtenu ces changements grâce à des pétitions qui ont été signées massivement par des gens et qui ont fait que au début notre première campagne publique, il y a eu Novotel, il y a eu Monoprix, et si on a obtenu leur engagement, c'était clairement grâce aux pétitions qui ont été signées et qui donne du poids à l'action, à la demande des organisations, à la demande des scientifiques. Parce que là, quelque part, nous, notre rôle par rapport à la question des zoonoses, c'est d'essayer d'amplifier la parole des scientifiques. Parce que justement, on trouve que cette parole, aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment prise en compte par les politiques. Sur la question des poules pondeuses, sur la question des poulets de chair aujourd'hui, là aussi on a des études scientifiques qui montrent combien les conditions de vie des animaux sont extérieures quand ils sont maintenus dans des cages, ou quand ils sont des grands bâtiments à plusieurs dizaines de milliers à patauger dans une lumière qui est sale depuis quelques jours. Ça s'appuie vraiment sur les études scientifiques qui montrent les profits de ces animaux. Et ça n'est pas entendu aujourd'hui par les pouvoirs publics. Et parfois, par les il y a de plus en plus d'écoute, au moins de par les entreprises, avec beaucoup d'engagement et des changements du coût d'approvisionnement qui rendent moins pire les conditions des animaux. Donc, toujours en attendant que on se décide enfin à les reconnaître en tant que composants de notre planète et pas en tant que nourriture à notre disposition.
À côté de la pétition en ligne, vous avez également mené des actions dans différentes villes pour sensibiliser et interpeller sur cette campagne. À Angers, c'était samedi dernier, d'autres ont déjà eu lieu ailleurs. Est-ce que vous avez eu des remontées du terrain, de ce que ça peut avoir comme impact médiatique ou auprès du grand public positif ? Et est-ce que pour celles et ceux qui seraient intéressés pour les actions à venir, on peut encore s'inscrire quelque part ?
Alors ces actions, effectivement, elles ont eu lieu ce week-end, il y en a sans doute d'autres à venir. Elles sont menées par des bénévoles, L214, c'est 2000 bénévoles répartis dans une cinquantaine de villes. Et donc effectivement, où qu'on m'a dit qu'il y a moyen de rejoindre un groupe local. Et très franchement, l'accueil en ville par le public a été très intéressé, vraiment en quête d'informations. Il y avait des actions à réaliser pour interpeller justement Emmanuel Macron en ligne et tout ça, et ça a bien porté malgré le froid parfois mordant sur certaines villes. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse qui ont repris justement cette idée qu'il y a une alerte scientifique sur les élevages intensifs et qu'on demande des actions pour sortir de l'élevage intensif. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant, très porteur aussi. Bienvenue sur les actions d'L214. Vous avez toujours un brief au début, des données qui vous sont envoyées. Enfin, nous, on sent vraiment est-ce que les gens comprennent le sens de l'action qu'ils sont en train de mener, qu'ils soient eux-mêmes convaincus de la justesse du message porté et qu'ils se l'approprient. Et je crois que c'est ça aussi qui fait le succès des actions. On est très à cheval. On dit pas tellement ça. c'est pas une expression qu'on utilise beaucoup, mais vraiment sur la rigueur et sur la justesse des informations qu'on peut donner. Et du coup, c'était important pour nous que nos groupes locaux bénéficient des informations dont nous on a pu bénéficier aussi justement grâce aux scientifiques.
Et donc pour finir, ça a été évoqué plusieurs fois, donc la solution principale pour se désengager de l'élevage intensif, c'est aussi qu'individuellement, on réduise notre consommation de viande, voire qu'on arrive à la supprimer. Vous disposez de nombreuses ressources également en ligne pour aider celles et ceux qui voudraient franchir le pas. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot pour inciter les auditeurs, auditrices à essayer de se tourner vers une alimentation moins carné.
Alors oui, on a développé tout un tas d'outils en ligne que vous trouverez d'ailleurs sur vegan-pratique.fr qui est notre site justement d'accompagnement, de découverte sur l'alimentation vegan qui est souvent mal connue, qui n'est pas une alimentation de privation mais qui garde tout le plaisir de l'alimentation. On est aussi gourmand que tout le monde et puis il n'y a pas une alimentation vegan, il y a des alimentations vegan entre ceux qui vont passer beaucoup de temps dans leur cuisine et qui vont beaucoup cuisiner, puis ceux qui vont manger plutôt de la junk food ou des choses comme ça. Donc on a un panel très très large. Et puis il y a aussi moyen d'aller interpeller sa mairie parce que la mairie elle a aussi un pouvoir de décider qui se retrouve dans nos assiettes. Pareil sur notre campus universitaire ou autre. Et là aussi avec L214 on accompagne ça. On avait une charte pour les municipales et quand les mairies s'engageaient sur la charte, elle s'engageait justement dans la commande publique à bannir les produits issus de l'élevage intensif et à proposer l'option végétarienne ou mieux végétalienne tous les jours et puis à avoir des journées spéciales comme le lundi vert par exemple où tout le monde, enfin en tout cas la proportion est drôlement axée sur le végétal, tout le monde mange végétal ce jour-là de façon justement à réduire son impact sur le climat, sur le côté sanitaire, sur le côté éthique, bien sûr. De façon à avancer tous ensemble. De façon générale, sur le site de L214, dans la section Agir, On propose tout un tas d'actions parce qu'avec L214, on s'adresse bien sûr au grand public, mais on s'adresse aux entreprises, aux institutions. Et du coup, il y a vraiment une multitude d'actions qui peuvent être faites, soit tranquillement devant son ordinateur ou sa tablette, soit effectivement en rejoignant un réseau de bénévoles qui est absolument fabuleux et d'un dynamisme inégalé, je trouve. Voilà.
Bien, on remettra les informations et les liens utiles sur la page de cette émission. Merci beaucoup Brigitte Gauthier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous donner toutes ces informations.
Eh bien, merci beaucoup à vous.
Et quant à nous, on se retrouve pour la fin de cette émission dans quelques instants. Ça sera après Winston McAnuff et le très approprié Love Animals.
Killing calves, searching for protein. It's all out there in those green fields. Long time before Hippocrates, I was the doctor of the jungle. Turn your hand and make fashion. Don't throw your garbage in the ocean. Yeah. Love animals, don't kill them. Love animals, protect them. Love animals, don't kill them. Love animals, protect them. Don't go killing fowls, searching for protein. It's all out there in those green fields. Forget spirulina. Your food should be a medicine. And your medicine, your food. Love animals, don't kill them. Love animals, protect them. Love animals, don't kill them. Love animals, protect them.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Ce soir, c'est comme chaque mardi, votre rendez-vous abstract hip-hop lo-fi 3615 chill out à 19h. Suivi un peu plus tard dans la soirée d'Electric Troubles, votre rendez-vous rock présenté par Étienne, ça sera à 22h. Très belle soirée sur les ondes du 103 FM. On se retrouve demain pour une nouvelle Covidienne. D'ici là, portez-vous bien.